Vous écoutez Logosphère, l'émission de reportages et d'entretiens, de rencontres et de réflexions. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est Logosphère sur les ondes d'univers. Jean-Claude Balbeau, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous avez été éleveur dans le Finistère, ancien administrateur de la Fédération nationale des CIVAM, le centre d'initiative pour valoriser l'agriculture et le milieu rural. Vous portez le projet depuis le tout début de votre activité professionnelle de promouvoir et mettre en place les conditions qui permettent l'accès de toutes et de tous à une alimentation de qualité. Ce qui vous a amené notamment à réfléchir et à travailler sur ce projet d'une sécurité sociale de l'alimentation qui aujourd'hui est portée et défendue par des réseaux d'ingénieurs agronomes, des économistes, des chercheurs d'une manière plus générale. Et justement, la sécurité sociale de l'alimentation, c'est tout simplement ce qui nous amène vers vous. Voilà, ce temps de discussion va être justement que vous puissiez nous présenter ce projet, cette idée qui permettrait l'accès de tous à une alimentation de qualité. Est-ce que vous pourriez nous parler, avant de commencer, nous parler de la sécurité sociale, de l'alimentation, nous parler de l'expérience et l'itinéraire qui soutient cette idée ?
Oui, bien sûr. Oui. Alors justement, je vais le faire en faisant un petit rectificatif à ce que vous avez dit. Oui, en effet, je suis paysan. J'étais éleveur dans le Finistère à partir de 1977 jusqu'à ma retraite, il y a quelques années maintenant. Et j'avais été ouvrier agricole avant d'ailleurs. Et je me suis consacré l'essentiel de ma carrière professionnelle à la production, la transformation et la vente des produits de l'élevage laitier, de vaches laitières et de vaches à viande, pour finir. Voilà, donc j'ai cette expérience de la vente directe et j'ai produit en respectant le cahier des charges de l'agriculture biologique, de mon propre chef. Hein, je n'ai demandé le label agriculture biologique. Mais par contre, la question telle que vous la formulez de l'accès à l'alimentation pour tout le monde, elle ne s'est vraiment posée à moi que assez tardivement, malheureusement. D'ailleurs, j'aurais bien aimé que la situation soit celle que vous décriviez, et que autant dès le départ, dans les années 70, on a quelques-uns imaginé dans le Finistère que les produits sous signe de qualité bio puisse être consommé par tout le monde, et on a créé un marché dans un quartier populaire de Brest à l'époque, mais qui n'a fonctionné que 2 ou 3 ans et qui a déménagé ses clics et ses claques pour s'installer quelques kilomètres plus bas en centre-ville où se trouvaient ses clients. Mmh. Autant cette dimension-là a été assez vite abandonnée, et pas seulement dans le milieu de la bio, hein, de manière générale dans l'agriculture. Très peu de paysans se posent la question de savoir qui mange ce qu'ils produisent. Mmh.
Donc, la réflexion part de cette relation entre le producteur et les gens qui vont se nourrir à partir de la production.
Oui, c'est ça. C'est que, en gros, moi, je fais partie d'un réseau CIVAM dont vous venez de donner l'acronyme, je ne vais pas le répéter, mais qui se targue depuis une trentaine d'années de définir correctement la durabilité des pratiques agricoles. Et avec une certaine réussite dans des productions laitières, par exemple, dans le Grand Ouest, de définir les critères qui permettent de dégager du revenu, de transmettre son exploitation et de vivre à peu près correctement pendant tout l'exercice professionnel. Et en plus, la plupart d'entre nous produisent sous signe de qualité, on se part d'une certaine vertu, quoi, disons. Alors en plus, si je faisais, par exemple, adhérent du GAB ou d'un réseau d'agriculture biologique, encore plus, je me pars d'une certaine vertu qui est celle de posséder la qualité ultime qui est celle d'un produit bio. Mmh. Sauf qu'il a bien fallu qu'on constate, malheureusement trop tard, que nous ne nourrissions qu'une petite partie de la population française. Nous ne nous adressons déjà d'ailleurs qu'à une petite partie de la population française, et en plus, nous n'avons comme client qu'une petite partie de la population, tout au plus 10% de la population. Et même si ce pourcentage augmente régulièrement, avant qu'il en arrive à dépasser la moyenne et qu'il recouvre 100% de la consommation, ce qui devrait être notre but ultime, il se passera encore quelques décennies. Mmh. Donc ça, c'est un constat qu'on fait cruellement, hein, que vous fassiez de la vente directe, c'est facile de le constater, vous avez toujours les mêmes clients devant vous. Ils sont sociologiquement définis, culturellement définis, économiquement définis, et... quand vous faites de l'industrie, que vous la fassiez sous signe de qualité ou pas, vous n'avez pas les clients sous les yeux. Donc il vous est absolument impossible de savoir qui consomme ce que vous faites. Donc cette question de savoir comment on mange, et où se nourrissent et où se ravitaillent les clients qui ne sont pas les nôtres, ou l'ensemble de la population française, comment est répartie la consommation alimentaire dans l'ensemble de la population française, c'est une question que les paysans ne se posent pas. La modernisation agricole leur a donné comme consigne de ne pas se soucier de ça. Mmh. Qu'il y aurait et il y a des gens dont c'est le métier, qui font de la recherche sur les moyens de faire consommer de ce qui est produit. Produisez, on trouvera bien le moyen de faire consommer ce que vous produisez par la population. Quoi. De la même manière qu'on nous a dit, vous ne souciez pas de l'environnement, on arrivera bien à dépolluer plus tard. On produit hors sol et on produit hors société. C'est en gros ça à peu près là, dans le modèle industriel. Mais nous qui cherchons à nous démarquer du modèle industriel, on n'a pas réussi plus que le modèle industriel à nourrir tout le monde. Et c'est le constat de l'impuissance dans lequel nous sommes nous et dans lequel est alors fortement le modèle industriel. Nous n'avons jamais prétendu nourrir tout le monde. On ne peut pas nous reprocher ça. Mais le modèle industriel a été créé pour nourrir tout le monde, pour créer l'abondance et nourrir tout le monde. Or, il a échoué. Mais alors, échoué à une mesure que vous ne pouvez même pas imaginer. Actuellement, la population française est très mal nourrie. Il y a 26 millions de Français au mois d'octobre dernier qui ont répondu à une enquête du Secours populaire en disant qu'ils ne mangeaient pas ce qu'ils souhaitaient. Pour des raisons économiques essentiellement, pour des raisons des modes d'existence aussi, pour tout un tas de raisons, de géographie, d'architecture, etc. Donc il y a 26 millions de Français qui sont aujourd'hui insatisfaits de leur nourriture. Vous imaginez un peu pour un paysan ce que ça veut dire. Il faut quand même savoir que c'est le modèle industriel qui est la cause de la difficulté d'accès, de l'impossibilité d'accéder correctement et de la malnutrition de la société française. Et pour ce qui concerne la bio, ça me paraît évident, hein, enfin... La bio, puisque c'est comme ça qu'on parle, enfin, le cahier des charges de l'agriculture biologique n'est qu'un cahier des charges d'une pratique agricole. Il ne peut donc absolument pas prétendre à transformer la société. En fait, il définit un complément de gamme du modèle industriel. Mmh. Et en prétendant que ce qui est produit par l'agriculture bio est une nourriture de qualité, on se trompe. Imaginerait-on qu'un produit sous label de qualité, quel qu'il soit, disons bio, mais si vous voulez, mais ça pourrait être un autre label, se dirait de qualité et qu'il n'atteint que 10% de la population française. Est-ce que vous pouvez décemment dire que quelque chose est de qualité quand il ne s'adresse et n'atteint que 10% d'une population? Et même si c'était 20, il nous semble à nous aujourd'hui, après un long travail de recherche qu'on a fait, que la première des qualités d'un produit, c'est d'être accessible à tous. Et tant qu'on n'en est pas là, on ne peut pas se targuer d'avoir une qualité quelconque. Alors après, on peut diviser la qualité en disant il y a une partie de la qualité qui a rapport à la santé, il y a une partie de la qualité qui a rapport à l'environnement, et puis j'en passe, c'est des meilleurs. Mais il n'empêche que la qualité d'un produit, la première de ses qualités, c'est bien que tout le monde puisse le manger.
C'est devant ce constat que vous proposez, et avec d'autres, vous proposer cette idée d'une sécurité sociale de l'alimentation. En quoi, justement, cette notion de sécurité sociale de l'alimentation répondrait à toutes ces difficultés que vous nous exposez?
Alors, pour nous, une des sources principales de la malnutrition de la population française, voire de la dénutrition même d'une partie des Français, elle vient de manière structurelle du modèle industriel dans un modèle industriel, il y a la séparation des tâches et la division du travail qui est inscrite dedans. Quoi. Plus vous divisez les tâches, plus vous séparez les travailleurs les uns des autres, et plus vous avez des chances d'accumuler le capital à un bout, d'augmenter la productivité et d'accumuler le capital. Donc au fur et à mesure du temps, s'est établie une méconnaissance complète entre les producteurs et les consommateurs. Nous sommes absolument incapables de comprendre, nous, producteurs, comment vivent la plupart de la population française, de comment ils se nourrissent, comment ils se logent, quelles sont les causes de cette difficulté alimentaire. Nous, ça nous échappe complètement, et c'est normal, historiquement, c'est prévu comme ça. Mais réciproquement, l'ensemble de la population française est absolument incapable de comprendre comment est construit le budget d'une exploitation agricole, qu'est-ce qu'elle est la part, par exemple, de la PAC à l'intérieur, pour quelles raisons nous sommes obligés d'utiliser la chimie, par exemple. Pour quelles raisons on ne peut pas dire que demain, avec le système actuel de production, des produits sans chimie vont nourrir tout le monde. Ça, c'est tout simplement pas possible. Donc, il faut arrêter de faire rêver les Français là-dessus. Mais ça, il faut un sacré boulot d'explication pour ça. Donc, cette séparation des deux mondes entre le producteur et le consommateur, il faut qu'on la brise. Et pour nous, ça s'appelle socialiser l'alimentation, socialiser l'agriculture, c'est-à-dire la sortir du marché. C'est ça que ça veut dire. Et cette socialisation-là, elle passe entre autres par, voilà, c'est une proposition qu'on a faite il y a 3-4 ans en s'appuyant sur l'histoire de la sécurité sociale de santé, elle passe par alors j'allais dire une branche, mais c'est pas comme ça qu'il faut parler, elle passe par la prise en compte par la sécurité sociale de l'alimentation. Voilà, la sécurité sociale telle que mise en place en 1946, aujourd'hui ne prend pas en compte l'alimentation, elle prend d'autres domaines de notre existence comme la santé, la retraite, mais elle ne prend pas en compte l'alimentation. Donc nous proposons qu'elle prenne en compte l'alimentation, et pour ça on a d'abord travaillé sur ce qu'était la sécurité sociale de santé pour essayer de comprendre de quoi il en retournait, comment elle s'était mise en place, la sécurité sociale générale d'ailleurs, et ensuite comment on pouvait y intégrer la partie alimentaire qui nous intéressait.
Vous nous en avez parlé déjà un peu. Est-ce que vous pourriez nous dire en quoi cela consiste et en quoi cela change complètement des dispositifs qui existent aujourd'hui ?
Il y a trois fondamentaux de définition de ce qui est une sécurité sociale et qu'on applique à l'alimentation. Il y a l'universalité, c'est-à-dire que tout les cotisants, donc tous les Français, sont concernés par cette sécurité sociale de l'alimentation. Il ne s'agit pas de s'intéresser aux pauvres. Ce n'est pas une politique pour les pauvres, c'est une politique universelle pour tout le monde. Quand vous faites une politique pour les pauvres, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait une politique pour les pauvres, alimentaire. Vous n'arrivez pas à vous nourrir, on vous file l'aide alimentaire, et on le file à beaucoup de monde. Et si vous êtes dans la précarité, on va aussi vous donner en partie de l'aide alimentaire. Et ça, c'est rentré dans l'économie agricole, ça en fait partie. Aujourd'hui, sans l'aide alimentaire, le système industriel aurait beaucoup de mal à tourner. C'est assez difficile à comprendre, mais c'est pourtant comme ça que ça se passe. Et donc, il n'est plus question de faire une politique pour les pauvres, comme le revenu universel, par exemple, qui est une politique aussi pour les pauvres à un moment ou un autre. Donc, il s'agit de faire une politique qui s'adresse à tout le monde, comme les chèques alimentaires là, que viennent de mettre sur le marché l'Assemblée nationale. Ça, c'est une politique pour les pauvres. C'est pas une politique universelle, c'est parce qu'il va falloir à un moment ou à un autre, si vous voulez y accéder, que vous veniez avec un papier montrer que vous êtes pauvre. Quand vous faites des politiques pour les pauvres, c'est que vous avez fait des politiques pour les riches précédemment. Si vous n'aviez pas fait de politique pour les riches, vous n'auriez pas à vous occuper de la pauvreté. Donc nous, ce constat-là, puis en plus le fait que vous êtes tout le temps en train de courir après la pauvreté, que plus vous allez vers elle pour vous en occuper, plus vous en créez dans les faits, on constate ça, fait que il nous faut, quand vous avez une carte vitale et que vous allez vous rentrer dans une pharmacie pour acheter, ou que vous allez chez le toubib, vous sortez votre carte vitale, le toubib ne vous demande pas si vous êtes riche ou pauvre. La carte vitale, c'est une carte qui sert à tous les Français. Et donc ça, c'est de base, l'universalité. La deuxième chose, c'est la cotisation. Ce sont des fonds qui vont être mis à disposition de l'ensemble des citoyens français, qui seront récupérés à partir de cotisations et non pas d'impôts et de taxes. Donc vous cotisez, à partir du moment où vous cotisez, vous avez non pas le droit, mais le devoir de venir dire ce que vous souhaitez qu'on fasse avec vos cotisations. Et ça, c'est là-dessus que nous, on va tabler pour établir la démocratie dans l'agriculture, qui nous a échappé complètement. Et le troisième pilier, c'est le conventionnement. C'est-à-dire que les sommes que vous aurez cotisées, que tout le monde aura cotisées, vous aurez la possibilité de les dépenser dans des endroits, production, transformation et mise en marché, dans des lieux qui auront été conventionnés par des caisses locales de sécurité sociale de l'alimentation. Et ce sont ces caisses locales de sécurité de l'alimentation qui vont être le siège demain de la délibération démocratique en matière d'alimentation. Ce sont des citoyens, alors bon, nous on est un certain nombre à prôner sur des bassins de vie de l'ordre de 15 à 20 000 personnes, un tirage au sort d'une peut-être une centaine de personnes, c'est des choses qui sont à ajuster, qui seront mises en connaissance de cause, c'est-à-dire qui pendant un an seront... le temps qu'elles assimilent les connaissances nécessaires pour faire des choix alimentaires, c'est-à-dire qu'elles rencontrent des professionnels des différents métiers concernés par l'alimentation, en premier bien sûr les paysans, mais aussi la transformation, mais aussi les metteurs en marché, mais aussi les professions de santé qui ont à voir avec ça, mais aussi les travailleurs sociaux qui sont aujourd'hui malheureusement et à l'encontre de leurs vœux des prescripteurs de l'alimentation, etc., qu'on soit capable de... Les économistes aussi qui sont là, qui sont capables de rencontrer, de prendre en considération les dégâts environnementaux produits par tout type de production agricole. Et à travers ça, de faire des choix disant, ben voilà, l'ensemble de la population souhaite manger de cette manière-là, et nous avons la certitude qu'il est possible de le produire ici, quelque chose qui en est assez proche. Donc nous avons décidé qu'à tel endroit, tel endroit, tel endroit, vous allez pouvoir dépenser les sommes allouées par la sécurité sociale. Voilà, en principe, le gros, à très grand trait, hein, bien sûr, le fonctionnement... qu'on a imaginé, on n'a pas vraiment imaginé, c'est qu'on l'a sorti de l'histoire, puisqu'il existait déjà à l'époque, et il a fallu simplement l'adapter à l'alimentation. Quoi.
Simplement, hein, c'est l'idée d'une sécurité sociale de l'alimentation, ce serait d'une certaine manière un peu comme l'éducation nationale, c'est-à-dire que le service, ce serait un service public auquel chacun pourrait prétendre et aurait accès.
Alors, vous faites bien de me poser la question, parce que là, ça va me permettre de poser une... Alors, c'est pas une nuance, une différence entre les deux. Nous, dans le réseau CIVAM, dont moi j'étais un administrateur et j'étais en charge de ce dossier-là, quand on a constaté que les gens qu'on ne voyait pas venir chez nous se ravitailler étaient en grande partie nourris par l'aide alimentaire, notre premier réflexe a été, je ne vous le cachais pas, de dire bah, l'aide alimentaire, c'est tellement violent qu'on y mettrait un peu de bio, on y mettrait un peu de circuit court, que ça ferait du bien à tout le monde. Et heureusement qu'on ne s'est pas engagé dans cette voie-là. Donc on est allé, on a pris le dossier autrement et on s'est demandé justement quels sont les critères d'une agriculture qui permettrait à tout le monde d'accéder à la nourriture correctement. Et très rapidement, moi je me suis dit, voilà ce qu'il faut établir, c'est ce que vous avez décrit à propos de l'enseignement, c'est un service public de l'alimentation qui permettrait d'avoir une alimentation gratuite. Ce sont des, comme l'enseignement est gratuit, quoi. Ce sont des propositions qui sont, par exemple, faites par un anthropologue comme Paul Ariès et tout un groupe de réflexion qui se fait autour de lui et desquels moi je participe quand l'occasion m'est donnée et qui ont été et qui sont encore pour moi une référence, quoi, quelque chose sur lesquels on peut réfléchir, se baser, s'appuyer, confronter ses propres idées. Mais ça, c'est ce que vous décrivez à propos de l'enseignement, c'est un service public. Donc, il y aura un service public de l'alimentation, mais un tel service public, il est abondé financièrement par les impôts et les taxes. Or, les taxes notamment, c'est pas toujours ce qu'il y a de plus juste en matière économique. Et ça, plus vous êtes pauvre, et plus vous payez de taxes, grosso modo. Donc déjà, là, il y a un petit problème. Et ensuite, deuxièmement, les impôts et les taxes, c'est administré par l'État. Ce sont les services de l'État qui administrent l'enseignement. Et actuellement, nous sommes mieux placés que quiconque pour vous dire qu'une politique d'État de l'agriculture, c'est la dernière chose à laquelle on a envie. C'est ce à quoi nous sommes confrontés. Une politique d'État actuellement, c'est une des raisons de la catastrophe. Une des raisons de la catastrophe alimentaire et agricole, c'est la constitution d'un cartel, qu'on appelle le complexe agro-industriel, dont l'État est un des le cœur de la machine. Quoi. Ce sont des tout un tas de structures syndicales, bancaires, des marchands de tracteurs, des marchands d'engrais, et y compris les forces de l'ordre aujourd'hui, puisqu'on a mis à leur disposition les forces de l'ordre à travers un programme de surveillance des réseaux sociaux pour lutter contre l'agribashing. Voilà comment on résout les problèmes. Et ce complexe agro-industriel, l'État en est partie prenante. Vous voyez, ça c'est le complexe agro-militaro-industriel américain avait été dénoncé par Roosevelt en 61, me semble-t-il, campagne électorale avant, ouais, c'est ça, 61 ou 60, 61, comme une des causes de la destruction de la démocratie aux États-Unis. Et nous, à la même époque, on crée, parce qu'on l'a créé par la loi, un complexe agro-industriel qui a détruit la démocratie dans l'alimentation, et ça ne pouvait pas être autrement. Donc il faut qu'on se tienne à distance d'un service public qui serait tenu par l'État. Et pour autant, je ne souhaite pas, personnellement, je ne souhaite pas qu'on renonce aux politiques publiques. Les politiques publiques, il n'y a aucune raison que les politiques publiques soient ce qu'elles sont aujourd'hui. Alors je vais vous donner un exemple basique, mais quand une commune, par exemple, fait une réserve foncière agricole, installe un exploitant agricole dans sa périphérie pour nourrir ses cantines, on est bien face à une politique publique qui a été mise en place par des taxes et des impôts, localement certes, mais c'est une politique publique et elle peut prendre une dimension plus grande. Donc on ne doit pas négliger les politiques publiques, il faut juste qu'on se les approprie et qu'on en fasse ce que nous souhaitons. Mais une fois dit ça, la sécurité sociale de l'alimentation, c'est autre chose. Elle est basée sur des cotisations et ce n'est pas un service public. C'est une autre forme plus puissante, en plus profondément anticapitaliste, puisque vous sortez du marché. La socialisation, c'est bien ça dans le fond, c'est sortir du marché une partie de notre activité, de nos échanges. Et donc là, en l'occurrence, concernant l'alimentation.
À travers ça aussi, on parle d'une notion de démocratie alimentaire.
Oui.
Est-ce que vous pourriez déployer justement cette notion ?
En quelques mots, c'est pas trop compliqué à comprendre. Aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est de choisir votre nourriture en tant que consommateur, avec votre carte de crédit. C'est ce que nous répondait le dernier ministre. Je vous avoue que les tout derniers, là, je ne connais même pas leur nom, mais le dernier ministre dont je me souvienne, parce qu'il est resté un peu longtemps, c'est Le Foll. Le Foll, quand vous vous adressiez à lui pour lui dire vous pourriez faire un peu plus de place à l'agriculture paysanne ou à l'agriculture bio ou des choses comme ça, il vous dit mais il n'y a pas de problème avec ça. Produisez, il faut le plus possible d'étiquettes pour que le consommateur puisse choisir. Le consommateur peut choisir. Vous faites de la bio, il y a des gens qui viennent vous acheter la bio, ils sont contents de ça, mais il faut de l'agriculture, il faut une production industrielle à côté pour ceux qui ne peuvent pas se payer la bio. Ils nous le disaient comme ça. Donc c'est la carte de crédit qui fait de vous un citoyen. Donc en fait, vous êtes consommateur. Vous n'êtes citoyen que parce que vous êtes consommateur. Or, il y a des gens qui consomment moins que d'autres. Il y a des gens qui n'ont pas les revenus suffisants. Donc quand vous ne pouvez pas consommer de la même manière, vous êtes des sous-citoyens. Et en termes d'alimentation, c'est à ça qu'on assiste. C'est pour ça qu'il y a une frustration et une insatisfaction alimentaire. Je suppose, mais moi ce n'est pas mon domaine, que c'est pareil dans le logement, que c'est peut-être pareil dans l'enseignement, peut-être pareil dans d'autres domaines. Mais en tout cas dans l'alimentation, qui n'est quand même pas n'importe quoi dans notre existence, n'importe quel domaine de l'existence, on assiste à ça. Alors nous, ce qu'on propose, au lieu de faire un choix par la carte de crédit, c'est de faire un choix par, la carte d'électeur, quoi. De faire un choix en tant que citoyen, pas en tant que consommateur. Et on propose de se donner les moyens, de nous donner les moyens de l'information autour de la question alimentaire que chacun voudrait avoir et a du mal à se procurer. On va se donner les moyens de se la procurer et de faire ce choix-là. Et c'est ça qu'on appelle la démocratie. C'est ça qu'on nomme la démocratie dans l'alimentation. Démocratie qui a complètement disparu. Aujourd'hui, vous ne faites plus vos achats alimentaires qu'avec votre revenu. Vous le faites en totale méconnaissance de cause. Vous achetez même de la bio uniquement parce que ça plaît à votre santé et que vous avez l'impression que la question environnementale sera résolue comme ça. Or, c'est faux. C'est faux. Il n'y a aucun espoir que la santé entière soit concernée par les méthodes de production bio actuelles. De la même manière que l'amélioration du climat ne se fera pas par les méthodes de production bio actuelles. Donc, vous voyez, c'est cette question de... La démocratie doit vous permettre de rentrer en connaissance de cause dans le modèle de la production alimentaire, de la production agricole et alimentaire.
L'agriculture est massivement subventionnée par des dispositifs comme la PAC. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer aussi que la sécurité sociale de l'alimentation se justifie par le fait que l'agriculture est massivement subventionnée ?
Bien sûr, c'est pas de la rhétorique, c'est une vérité. Vous payez par vos impôts et vos taxes, et je vous le disais tout à l'heure de manière assez injuste, une subvention mais phénoménale quoi, d'une agriculture et d'une alimentation du coup qui vous insatisfait, voire même qui dégrade vos conditions de vie. Et donc vous êtes en droit de vous lever et d'exiger que l'on prenne en considération vos désirs à vous, quoi, parce qu'il n'y a pas que les désirs des riches qui sont à prendre en considération sur cette terre tout de même. Donc vous avez parfaitement raison, cette proposition de sécurité sociale de l'alimentation, elle est aussi née de considérations d'ordre plus général, d'ordre philosophique, par exemple. Il est temps pour reprendre une expression qui n'est pas de moi, qu'on ne se satisfasse plus de la sédimentation de l'inacceptable. Là, nous sommes face à, depuis 30 ans, une sédimentation de l'inacceptable en matière générale et en matière alimentaire et agricole encore plus. On accepte petit à petit tout un tas de choses. Voilà. Il y a des émissions sur le suicide paysan, mais ça n'a jamais changé d'un pouce. Il n'y en a pas un de moins, de suicide. Mais il y a des émissions là-dessus. Il y a des émissions sur l'obésité dans la société et ses conséquences sur la santé, etc. Et sa provenance par une alimentation. On accepte. Tout ça sédimente. Personne ne dit rien, alors que c'est totalement inacceptable. Vous voyez, ce sont nos impôts, nos taxes. Il faut qu'on réclame et qu'on dise. Et ça va être notre taf à nous, ça va être notre boulot à nous dans les années qui vont venir, d'aller trouver les populations qui sont face à ces difficultés-là, leur expliquer que nous, on est pauvres, avec leurs impôts et leurs taxes, ils nous ont rendus pauvres, et nous, on les a rendus pauvres aussi d'un point de vue alimentaire. C'est un vaste mouvement populaire qu'il faut qu'on construise comme ça. Si nous voulons, nous, sur notre proposition de société paysanne, avoir l'accord, l'adhésion de la population française, il va falloir qu'on explique. Là, vous payez actuellement, vous payez très cher quelque chose qui ne vous rend pas satisfait. On peut vous offrir autre chose. Nous, on est attentifs à ces trois dimensions dont je vous parlais tout à l'heure. L'universalité, donc il ne faut pas que ce soit quelque chose qui s'adresse à une partie de la population désignée comme manquant de quelque chose. Il faut que ça s'adresse à tout le monde, les plus riches comme les plus pauvres. Parce qu'on ne veut pas dire qui est pauvre, parce qu'on s'interdit de le dire. Donc l'universalité, c'est la seule manière de faire une politique pour tout le monde. La cotisation, donc pas les taxes et les impôts, et surtout pas sur des produits, et la caisse de conventionnement après, qui laisse la démocratie aussi, qui laisse le choix aux citoyens de ce qu'il veut consommer avec les sommes récoltées, avec les cotisations récoltées.
Vous parlez justement de l'alimentation aujourd'hui qui est dépendante d'un système, d'un modèle agricole dont on connaît évidemment toutes les impasses. Vous nous en avez parlé en début d'interview, tant d'un point de vue environnemental, les pollutions qu'il engendre, que d'un point de vue social pour les personnes qui peuvent y travailler et aussi les gens qui consomment. Justement, en quoi la sécurité sociale alimentaire, de votre point de vue, serait un levier pour permettre de transformer aussi le modèle agricole, les manières avec lesquelles on produit ?
Oui. Bah, si au lieu de considérer l'ensemble de la population comme des consommateurs alignés les uns à côté des autres, à côté auxquels vous faites une offre et vous faites une course après pour savoir lesquels vont accéder au premier au magasin, et ma foi, ceux qui n'ont pas les revenus, ils accèdent au magasin de bas de gamme, quoi. Au lieu de faire cette proposition-là, on va au contraire s'adresser à l'ensemble de la population pour leur demander de définir ce qu'ils souhaitent manger. Et nous sommes persuadés que tous, nous voulons manger à peu près la même chose. C'est-à-dire que tous, nous voulons manger comme mange la partie de population que nous nourrissons. Que si nous laissons s'exprimer correctement et nous donner les moyens de cette démocratie, là, c'est pas simple non plus, hein, que si nous laissons s'exprimer correctement la population, les gens, nous allons, voilà, je ne vais pas dire les gens, nous allons tous demander à manger moins de sel, moins de sucre, moins de gras, moins de pesticides, moins de perturbateurs endocriniens. Nous allons même être attentifs à ce que les gens qui travaillent à la produire cette nourriture soient mieux rémunérés. Nous allons même être attentifs à ce que l'environnement soit respecté et que, par exemple, l'agriculture qui va produire notre nourriture soit moins productrice de gaz à effet de serre. Voilà, un exemple parmi d'autres. Je suis absolument persuadé par expérience qu'à n'importe qui vous posez la question de la nourriture qu'il souhaite, et vous avez toujours les mêmes réponses à quelques exceptions culturelles près. Enfin, ce n'est pas les exceptions culturelles, c'est à quelques nuances culturelles près. Et donc cette possibilité de laisser les citoyens s'exprimer, cette obligation de laisser les citoyens s'exprimer sur la manière dont ils veulent se nourrir, c'est la seule façon, il n'y en a pas d'autre, que pour transformer l'agriculture. Sinon, c'est la bagarre générale, c'est la foire d'empoigne entre le modèle industriel qui de toute manière va ravager, est déjà en train de le faire et va continuer à ravager, et l'environnement et la société, et qui ne renoncera à rien, absolument à rien du tout, il ne lâchera rien. Il est d'ailleurs en train d'envahir la bio, comme on le disait tout à l'heure, donc il ne va rien lâcher là-dessus. Il va remplacer en permanence le travail par la machine, par exemple, il va en permanence concentrer le capital, et pour ça, il n'hésitera pas, que ce soit la santé des concitoyens ou l'environnement, il ne renoncera à rien, le massacre sera total. Et ça sera à nous, foire d'empoigne, petit poussé, en train de faire des signes en disant « Ouais, mais nous, on existe aussi, il faut nous donner à nous, vous inquiétez pas, vous avez 10%, demain, vous aurez 11%, ça va aller, ça va aller. » C'est l'ambiance actuelle, on arrive à absolument rien. Moi, ça fait 40 ans que je produis en respectant un cahier des charges, même si je ne suis pas inscrit dedans, en respectant un cahier des charges qui, normalement, aurait dû améliorer grandement la qualité de l'eau en Bretagne, aurait dû améliorer grandement le sort de la plupart de mes concitoyens en termes de santé alimentaire, et je constate le contraire. Je constate que la qualité de l'eau n'a pas cessé de dégrader, que l'usage des pesticides est en train de s'agrandir, que l'air qu'on respire est de plus en plus chargé en toutes sortes de molécules dont plus personne ne nous parle d'ailleurs, qu'on est ultra-producteur de gaz à effet de serre, etc., 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 et qu'on est en train de nous vendre tout un tas de baratins, de pipeaux et de compagnie sur la puissance des tracteurs en y installant de l'électronique et en nous disant que c'est par l'électronique que nous allons nous sauver de l'affaire. Qu'on va ajuster grâce à des logiciels notre consommation de tous ces produits-là. Je pense que, par exemple, les consommateurs des AMAP sont aussi concernés dans leur impuissance, parce que c'est de l'impuissance que ça relève, dans leur impuissance à changer de modèle, pour peu qu'ils le veuillent d'ailleurs. Dans les consommateurs d'AMAP, il n'est pas certain que tout le monde veuille changer un modèle quelconque. Mais dans ceux qui le veulent, en tout cas, ils sont totalement impuissants à le faire. Comme au réseau CIVAM, nous sommes impuissants. Et pourtant, ce que l'on fait est absolument indispensable. On ne peut pas se passer de ce que l'on fait. Moi, je ne pourrais pas vous parler comme je vous parle là si je n'avais pas moi-même pratiqué.
S'il n'y a pas cette expérience-là des circuits courts, malgré tout, des relations avec les clients, ce sont des lieux qui permettent justement des expériences d'une autre forme d'agriculture. Tout de même,
oui,
j'imagine.
Oui, ça c'est nécessaire. Si vous voulez convaincre... Si nous voulons avoir suffisamment confiance en nous pour demain faire une proposition de socialisation telle que celle que je vous décrivais tout à l'heure, eh bien il faut qu'on ait pratiqué, il faut qu'on puisse dire voilà ce qui est déjà là. Certes, c'est peu de choses, mais voilà ce qui est déjà là. Voilà, on va en discuter, on sait nager. Voilà, donc on peut peut-être essayer de traverser la rivière. Si on ne savait pas nager, on ne vous proposerait pas de traverser la rivière. Si vous dites aux Français... Voilà, vous allez manger correctement, il faut leur dire immédiatement, nous allons changer de modèle de société. Et c'est pas, avec 400 000 paysans, strictement impossible, d'autant plus qu'on sera plutôt 250 000 ou 300 000 bientôt, c'est strictement impossible de se passer de chimie et de robots. Or, c'est pas ça qu'on veut, c'est tout à fait autre chose. Il y avait un vieux slogan de la Confédération paysanne qui date d'au moins 10 ans, c'est pour ça que je dis vieux, ça va tellement vite en ce moment, qui était de dire notre horizon c'est 1 million de paysans, nous voulons 1 million de paysans. Bon, certes, voilà, si on met 1 million, 1,5 million de paysans, parce que c'est Terre de Liens aujourd'hui qui a avancé ce chiffre-là, si on met 1,5 million de paysans au travail, oui, là, on va commencer à parler de choses sérieuses et on va pouvoir dire, oui, nous pouvons produire sans chimie, nous pouvons produire votre sucre sans chimie, nous pouvons produire votre pain sans chimie. Faut pas penser qu'on va manger que des légumes, hein, et faut pas penser que le maraîcher d'un hectare qui habite à côté de chez vous, là, il nourrit toute la France et vous nourrit même vous. Et nous allons pouvoir commencer à rentrer dans des discussions et échanger peut-être un peu de pain et un peu de sucre contre du café et du thé. Parce que c'est aussi une partie de la consommation alimentaire des Français. Quand on va commencer à rentrer là-dedans, on sera 1,5 million de paysans. Là, oui, on peut commencer à réfléchir sérieusement à produire sans chimie, sans robot. Mais moi, je vous le dis comme je l'ai fait, comme je le connais d'expérience. Je ne veux pas être de ce 1,5 million de paysans et je ne veux pas que mes enfants y soient. Parce que c'est le bagne. Parce que nous, on a vécu ça 40 ans. Voilà, on avait la foi, pour le coup, c'est une foi de charbonnier accrochée aux tripes. On voulait produire, on voulait vendre en circuit court, on voulait échapper au modèle industriel. Et bien, on a travaillé 70 heures par semaine à produire, à transformer et à mettre en marché. Et on a pris des vacances, ça faisait 15 ans qu'on était installés. Et on a eu la chance d'être en très bonne santé tous les deux. Et moi, j'ai vu un nombre incalculable de... Et j'en vois tous les jours un nombre incalculable de jeunes s'installer et lâcher en route. Mmh. Ils veulent être maraîchers, faire des circuits courts, ils veulent parfois faire de la traction animale, ils veulent faire tout un tas de trucs, ils ont des projets de vie absolument incroyables et indispensables. Je suis même intervenu hier soir dans une formation dont j'ai rencontré une dizaine de ces jeunes-là. Mais je pourrais y être trois fois par jour. Il y en a de ces formations-là. Il y a une aspiration à ce travail-là. Mmh. Mais si on laisse ces jeunes se confronter aux mêmes situations de travail que nous avons rencontrées, eh bien, il y en a 9 sur 10 qui n'arriveront pas au bout de leur carrière. Donc on ne peut pas se permettre ces échecs-là. Donc aujourd'hui, pour faire une proposition politique, c'est tout à fait autre chose. Ce n'est pas une société avec des paysans, c'est une société de paysans. Et ce n'est pas la nostalgie d'hier que j'ai au cœur. C'est la nostalgie de demain, c'est la nostalgie d'aujourd'hui. Si on n'a pas une société de paysans avec 10% de la population qui consacre son temps à produire son alimentation, si on n'a pas une telle société, donc ça veut dire entre 6 et 7 millions de paysans en France, je dis paysans, c'est un terme générique, entendons-nous bien, si on n'a pas cette possibilité-là, si on ne donne pas à la population cette possibilité-là d'accès à la terre, l'accès aux moyens de production, et si on ne déclenche pas un mouvement qui le soutienne, eh bien, on peut toujours rêver à tout ce qu'on veut, démocratie alimentaire, socialisation de ceci, et amélioration de la qualité de ceci et de tout cela, ça ne sera jamais que des rêves. Quoi.
Mmh. Et... Donc la démocratie alimentaire dont on parle passe aussi, et peut-être en premier lieu, par l'attention aux travailleurs, justement, aux travailleurs qui produisent l'alimentation, en premier lieu.
Oui, bien sûr. Ben, oui.
C'est ce que vous dites.
J'allais vous dire que c'est un truisme, mais oui, la démocratie consiste à prendre soin de quelqu'un qui, si vous êtes attentif à la démocratie, ben, la première des choses à laquelle vous devez vous conformer, c'est d'être attentif à ceux qui
produisent l'alimentation.
Produisent en tout cas l'alimentation pour ce qui concerne. Et quand je dis produire, évidemment, là, moi, d'où je suis, je parle comme un paysan, mais il s'agit aussi du sort des gens qui travaillent dans les abattoirs, des gens qui travaillent dans les usines de transformation, et aussi des gens qui travaillent dans la mise en marché, dans les grandes surfaces. Vous voyez, de la manière dont ils sont payés, il faut s'adresser à Carrefour et dire, mais à Carrefour, vous prétendez nourrir tout le monde, mais d'abord, vous nourrissez pas les paysans, puisque vous ne les payez pas, et deux, vous nourrissez à peine vos caissières, parce que non plus, vous ne les payez pas très cher, et vous vous en foutez plein les poches en passant. Donc vous voyez qu'il y a des interrogations de ce type-là. Alors est-ce qu'on est capable ? Moi, je me suis longtemps dit qu'on était capable d'avoir une industrie à notre main. Un modèle industriel vertueux, voilà, pour dire les choses comme ça rapidement, des OGM prolétaires. Voilà, j'ai même pensé un moment que peut-être qu'il n'y a pas les moyens de faire autrement, qu'on pourrait avoir, plutôt que d'avoir des gens qui meurent de faim, leur donner à manger correctement pour tout le monde, pour tous pareil, quoi. Tout le monde pareil, reprendre en main le capital dans les usines, et reprendre en main le capital dans les fermes et tout ça, et faire un peu le modèle de démocratie prolétarienne des soviétiques, quoi. En gros, grosso modo, une forme un peu marxiste et léniniste de la production. Et je pense que c'est totalement impossible. L'industrie ne peut avoir qu'une forme capitaliste. Il est absolument... Pour moi, aujourd'hui, devenu, en tout cas en ce qui concerne l'agriculture, il est devenu impensable d'imaginer une industrie qui n'est pas la forme qu'elle est actuellement. Et donc, il faut qu'on se passe de ça, il faut qu'on arrive à revenir à une production qui mobilise beaucoup de producteurs. C'est la seule manière qu'on aura d'être tous nourris et dans un respect maximum de l'environnement dans lequel on vit.
Très bien. Jean-Claude Balbeau, donc je le rappelle, vous avez été éleveur pendant de très nombreuses années dans le Finistère. Vous avez été aussi ancien administrateur de la Fédération nationale des CIVAM, le centre d'initiative pour valoriser l'agriculture et le milieu rural. Merci beaucoup pour donc cet entretien autour de la sécurité sociale alimentaire.
Et c'est moi qui vous remercie.
Merci.
Au revoir. We'll be right back.